Ce Radio Bac, troisième partie, donc, avec notre invité Nicolas Saint-Cluc. Bonjour, rebonjour, monsieur Saint-Cluc.
Rebonjour.
Alors, vous êtes, depuis 6 ans ou presque maintenant, conseiller municipal à Narbonne, d'opposition. Vous êtes également, alors, vous siégez à l'agglo, pour des raisons identiques, parce que vous êtes élu à la mairie, mais vous êtes aussi conseiller départemental. Et puis, surtout, depuis quelques mois maintenant, on le sait, vous êtes tête de liste pour une liste qui s'appelle Narbonne en commun, NEC. Mmh. Et alors, ça sera la première question. Qu'est-ce que c'est que cette mise en commun? Sur quels critères avez-vous recruté et défini cette liste et l'écolistier?
Alors, au départ, il n'y a pas de critères. C'est juste une charte. On a établi une charte. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel qui a été fait donc, par plusieurs forces de gauche sur le Narbonnais pour se rassembler, en se disant que de toute façon, on ne pouvait pas gagner les élections sans se rassembler. Et donc, il y a eu plusieurs groupes. Et aujourd'hui, vous avez donc le PS, vous avez le PC, vous avez Nouvelle Donne, J'aime Narbonne, Rebondir 11 et le Mouvement Citoyen Narbonnais. Et il y avait eu, à un moment donné, les Verts qui sont partis au dernier moment. Mais voilà, donc, et sur la base, ça a été surtout des valeurs communes dans cette charte, hein, que l'on a d'ailleurs publiée. Et une façon aussi de travailler, c'est-à-dire justement mettre en commun ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, l'aventure a commencé. Et je n'ai pas été élu de suite, hein, chef de liste. Ça a été aussi...
Oui, il y a longtemps que vous négociez, apparemment.
Oui, ça a été... L'élection a eu lieu, mais maintenant, je crois qu'il y a 2 mois. C'était, je crois, en début septembre, ou fin septembre, me semble-t-il, début octobre. Donc voilà, ça s'est fait de manière aussi démocratique. Et pour la liste proprement dite aujourd'hui, puisque vous parlez de liste, elle est en train de s'établir aussi de la même manière, c'est-à-dire de manière démocratique. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide, voilà, comme le fait du prince ou comme d'autres peuvent le faire. C'est-à-dire que là, c'est un débat qui a lieu avec les 6 groupes et pour faire en sorte qu'il y ait bien une représentation de chaque groupe avec des personnes aussi qui ont des compétences, faire attention à la parité aussi et faire en sorte aussi qu'il y ait des personnes qui sont en dehors de ces 6 groupes, même si ce sont des gens de la société civile, qu'on puisse rechercher ailleurs et qu'ils puissent aussi bien être sur notre liste parce qu'ils ont envie de nous aider, de travailler pour Narbonne.
Alors l'épisode des Verts, rapidement, ils sont partis parce que ça ne correspondait pas à vos critères, même si le mot ne vous convient pas.
Non, du tout. Malheureusement, c'est dommage parce que sur le programme, on était d'accord, on était parvenu à un accord sur tout le programme, et j'avais d'ailleurs indiqué que lorsqu'on a fait travailler chaque groupe, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, hein, de réunions, dans chaque groupe, des réunions, c'est des ruches, on a fait une grande ruche qui était ouverte au public, hein, donc beaucoup de travail. Vous savez, on en est à 40 réunions aujourd'hui qui ont duré entre 3 et 4 heures. Vous faites le calcul, on a plus de 150 heures de travail. Donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de propositions, et dans chaque groupe, 60% des remontées, c'était l'environnement. L'environnement, déjà, a conquis tous les esprits. C'est-à-dire que, forcément, puisqu'on est dans un environnement contraint, on sait qu'aujourd'hui, il faut changer de braquet, qu'il y a des choses importantes qu'il faut mettre en place, que le réchauffement climatique, ce n'est plus un leurre, c'est une certitude, et qu'ici, on va être très impacté. Donc, on était d'accord, et on avait réussi à avoir un programme commun. La seule chose, c'est qu'on n'était pas d'accord, peut-être, sur la forme, et peut-être aussi qu'elles ont subi des pressions, qui ont fait que ça, elles n'ont pas pu continuer. Voilà. Mais c'est vrai que, malheureusement, sur le fond, on était d'accord, mais sur la forme, vous voyez, par exemple, que je sois tête de liste, que je sois mis trois en avant dès le départ, alors qu'on n'a pas encore fait la liste. Bon, c'est d'autant plus désobligeant qu'aujourd'hui, je vois que sur la présentation donc des Robines, c'est Viviane Thivant qui se présente pour l'instant seule aussi, qui a besoin aussi de se faire connaître, parce que malheureusement, le tête de liste, on est encore dans un système où c'est le maire, la maire qui va être élu, dont les gens sont sur ce modèle-là. Et c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière. Et c'est très important, l'équipe. Et le programme est là encore plus. Mais malheureusement, on est aussi sur une personnalité. On est sur ce modèle-là. Et je crois qu'on n'a pas le temps d'expérimentation. Quand on veut gagner, quand on veut faire des choses importantes pour une ville, il faut mettre tous les atouts de son côté. Donc c'est à ce niveau-là, je pense, au niveau aussi communication, qu'on n'était pas forcément d'accord. Mais après, on n'a aucun désaccord sur le fond. Et là, c'est l'essentiel.
Oui. Alors, constituer une liste, c'est quand même pas simple. Monsieur Saint-Cluc.
Ce n'est pas simple, mais ça permet. Vous savez, on gagne après aussi en discutant avec les autres et voyant aussi que voilà les différentes personnes aussi qu'on vous présente que vous connaissez pas forcément. Donc, du coup, vous regardez les CV, vous les voyez, et ça c'est très intéressant. Et on arrive à faire une liste finalement qui représente aussi toute la société, hein, qui font à la fois des jeunes, des moins jeunes, des gens aussi en activité.
Mais il faut des gens motivés.
Motivés, très
c'est
motivés.
C'est là où c'est pas simple.
Bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai été très clair, hein, en tout cas en ce qui concerne concerne, par exemple, Jaime Narbonne et le PS, lorsque je les ai rencontrés en amont, je leur ai expliqué ce qu'était le rôle d'un élu. Et quand on explique bien ce qu'est le rôle d'un élu, c'est-à-dire qu'un élu, il n'est pas juste en représentation, il doit travailler, il doit donner un certain temps à la société, bien je peux vous assurer qu'il y a beaucoup moins de gens après qui ont envie d'être élus. Mais donc il faut pas cacher les choses. C'est-à-dire qu'on attend des élus aujourd'hui, ben qu'effectivement ils soient près des gens, mais aussi qu'ils travaillent les dossiers. Donc c'est un rôle qui est compliqué, qui est difficile. Ça demande un investissement personnel, souvent au détriment de la vie familiale ou professionnelle, en tout cas au niveau local. Mais c'est important de le savoir, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont prêts à le faire. Et ça, c'est quand même encore une chance dans une ville. Dans les villages, vous savez qu'aujourd'hui, dans les villages, c'est l'inverse. Hein. Mmh. Dans les villages, on commence à avoir de gros soucis pour avoir même des candidats maires. Et dans les villes, même pour des adjoints, etc., c'est vrai que ça peut commencer à être compliqué.
Voilà. Donc il faut des gens qui s'engagent en toute connaissance de cause.
Exactement.
Ouais. Et alors, sur ce que vous avez décrit, socialiste, communiste, Jaime Narbonne, etc., mm-hmm. ça peut, d'un certain point de vue, et grosso modo, faire penser à jadis l'Union de la gauche. Qu'on a connu à un niveau
national. Oui, c'est une union des forces de gauche et citoyennes, puisque vous avez le mouvement des citoyens Narbonnais, vous avez Rebondir 11. Voilà, il y a des gens qui se mettent pas forcément, enfin, et même dans Jaime Narbonne, vous avez des gens qui sont encartés nulle part, qui ont jamais été encartés, mais qui partagent nos valeurs. Quand vous regardez les valeurs humanisme, écologie, citoyenneté, démocratie, et derrière avec tout ce qu'on va mettre derrière ces mots-là, c'est ça qui est important, c'est-à-dire par rapport aussi à ce qu'on veut mettre en musique, hein, comment on va développer le programme, c'est là-dessus que les gens doivent se retrouver, tout simplement.
Mais, bon, vous êtes socialiste, vous ne l'avez jamais caché.
Jamais.
Et d'ailleurs, vous faites partie des gens qui restent, jusqu'à preuve du contraire, fidèles au Parti Socialiste, même pendant les épreuves, si j'ai bien compris.
Ah, même quand le bateau tangue, oui, bien sûr.
Bon, et ce peut-être qui fait dire, par exemple, à Monsieur Perreal, député, que vous seriez la marionnette de Madame Delga, qui elle est également socialiste au niveau de la région.
Oui, alors je vais pas sur ce genre de polémique. Je trouve que je trouve ça regrettable. Ça montre encore une image de la politique qui est dégradante. On est sur de la caricature. Moi, je suis la marionnette de personne. Alors, plus ceux qui me connaissent, voilà. Si moi j'étais une marionnette, alors beaucoup de gens seraient des marionnettes. Le problème, c'est que ils donnent l'impression inverse. En ayant cette posture, ils démontrent finalement que Monsieur Granel, qui ne cite même pas et qui est quand même le tête de liste de Narbonne 21, devient finalement même pas sa marionnette. Il prend sa place. Donc c'est quand même, parce qu'en principe, vous savez, celui qui dirige sa marionnette doit faire briller sa marionnette. Et à un moment donné, celui qui est derrière, il n'existe plus. Mais là, ça crée un peu l'effet inverse. Et je crois que ça a dû souffler très fort à Narbonne 21. Ils veulent rentrer dans le 21e siècle. Bon, je crois qu'on y est depuis un certain temps. Vous voyez, c'est quand on oppose le nouveau monde et l'ancien monde. Vous avez dit tout à l'heure que Monsieur Michel Santo a indiqué que notre président était brillant, mais il est aussi très clivant. Et il faut arrêter d'opposer toujours les choses, il faut pas les opposer. Le monde, il est fait de nuances. Et lorsqu'on fait aussi de la politique, il faut être nuancé. Moi, je suis pas dans la caricature, et donc je n'ai pas envie de répondre à ce genre de propos.
Alors une petite remarque géographique, si je puis dire. Vous avez choisi, vous avez installé votre local de campagne pratiquement en face de celui de Monsieur Mouly. Est-ce que c'est un symbole?
Alors,
face à face.
Est-ce que c'est moi qui ai choisi ou c'est Monsieur Mouly? Sachez quand même que c'est nous qui nous sommes installés en premier à cet endroit-là, sur le boulevard du Général de Gaulle, et il me semble que voilà que Monsieur Mouly s'est installé peu de temps après. Bon, je ne sais pas si c'est pour avoir un face-à-face, en tout cas c'était pas la volonté. Nous, ça a été surtout de trouver un endroit qui était passant, qu'on puisse aussi y accéder facilement pour pouvoir se garer aussi, pour que les personnes qui viennent puissent se garer. Et voilà. Donc et après il y a une question aussi de coût, enfin d'opportunité. C'est pas simple non plus de trouver un local. Et nous l'avons trouvé à cet endroit-là, et il n'y avait aucune tactique par rapport, si vous voulez. Non, il se trouve que c'est le hasard. Écoutez, c'est peut-être un heureux hasard.
Oui, une remarque, Michel.
Oui, mais ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que symboliquement, la permanence de M. Sainte-Cluque se trouve à côté de l'ancien tribunal, en fait, de Narbonne.
Ah oui,
celle
oui.
De Libouille, du côté de la sous-préfecture.
Donc, tout à côté du palais de justice.
Deux mondes, en fait, ouais. De mondes différents, quoi.
Oui. J'ai la sous-préfecture en face, quand même. J'ai aussi à ma gauche le nouveau tribunal. Donc, on est bien entouré, en tout cas. Et la police nationale.
Ce qui pour deux
ça avocats. Évitera les embrouilles.
Ce qui, pour deux avocats, quand même, n'est pas mal, quoi.
Oui. Alors, venons-en maintenant à votre programme. Vous déclariez en substance, il n'y a pas très longtemps, publiquement, M. Sainte-Cluque, qu'il faut changer de modèle. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
De modèle, alors c'est un peu plus vaste que ça. Quand je parlais de modèle, c'est de modèle de faire de la... Alors, à la fois un modèle économique, modèle social, modèle écologique. Et modèle aussi dans la manière dont on a géré, dont les relations se sont passées au niveau de la ville aussi et des partenariats avec la région, le département et surtout l'agglomération.
Oui,
donc changer de modèle...
On va y revenir.
Voilà, le modèle, c'est tout ça. Donc, effectivement, quand je dis changer de modèle, c'est par exemple sur l'économie. Ne pas opposer le développement économique et l'écologie. On peut faire du développement économique tout en faisant de l'écologie. Lorsqu'on parle par exemple du développement des éoliennes en mer, bon, mais voilà, il faut quand même faire des investissements pour faire en sorte que ces énergies renouvelables puissent exister et puissent se prendre le pas, par exemple sur le nucléaire. Donc tout ça, ça se travaille, ça se regarde avec un plan d'ensemble. Et il faut pas dire, par exemple, comme certains, il faut tout arrêter, alors que nous sommes dans un département qui est relativement pauvre. Vous savez, vous avez 25% des gens dans le Narbonnais qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, ce qui est important aussi, c'est de créer des emplois. Et quand on parle, par exemple, des énergies renouvelables, bon, c'est ma compétence au niveau du département, mais moi, je suis pour le développement des énergies renouvelables. Même si, quand vous faites des énergies renouvelables, vous créez aussi des impacts qui peuvent être négatifs sur l'environnement. Après, ce qui compte, c'est que sur du moyen ou du long terme, il soit plus positif que les premiers éléments qui ont fait qu'il y avait des impacts négatifs. Donc tout ça, ça se mesure. Et voilà, donc échanger de modèle aussi au niveau de la démocratie aussi, la manière dont on exerce le pouvoir. Il vous a pas échappé, alors c'est vrai qu'on l'a pas encore trop développé, mais qu'on va aussi mettre en place au niveau démocratique de nouveaux outils de démocratie participative. C'est important, notamment un budget participatif, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que 10% de l'investissement soit consacré chaque année à la démocratie participative, un budget participatif, c'est-à-dire que c'est les gens qui décident de cet argent, qu'est-ce qu'on en fait en investissement, par exemple.
Oui, oui. Je remarquerai simplement au passage qu'on a eu jadis des conseils de quartier qui reposaient sur une bonne idée aussi.
Alors attention, parce que vous avez les conseils de quartier qui sont définis légalement, c'est pour rapport aussi à la politique de la ville, donc c'est quelque chose qui est bien fléché. Après, nous, on veut aussi créer les fabriques citoyennes, donc il y a encore autre chose. Fabrique citoyenne, tout à fait.
Oui.
Fabrique citoyenne. C'est pas pour fabriquer des citoyens. C'est pour que les citoyens, justement, soient en action. Voilà. Puis qu'ils puissent se faire en ayant aussi des connaissances. Donc tout ça, ça se met petit à petit. Ça se fait de manière précise. Et en le développant dans notre programme. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous présenter tout mon programme. Mais quand je parle aussi de modèle, il faut être aussi sérieux. Quand on a parlé, par exemple, beaucoup parlent de la police municipale. Certains parlent de doubler les effectifs. Tout à l'heure, on a parlé de 3-8, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est très simple. Remettre, par exemple, la police municipale dans les quartiers, faire de l'îlotage, c'est recréer le lien. Pourquoi ? Parce que quand vous avez effectivement les policiers qui sont plus dans les quartiers, qu'il n'y a plus d'îlotage et qui ne sont pas présents toute la journée dans les quartiers, il y a le lien qui disparaît. Du coup, il y a une méfiance qui commence à se faire par rapport aux policiers municipaux qui font pourtant un travail remarquable.
Et vous trouvez qu'ils ne sont pas assez présents ?
Non, ils ne sont pas assez présents. Mais non, mais c'est pas moi qui le pense. Lorsque vous faites le porte-à-porte, lorsque vous regardez l'ensemble des quartiers que l'on a fait, c'est ce qui ressort partout. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je le propose. Vous aviez un local à Razimbo qui n'est plus utilisé. Vous avez un local à Saint-Jean-Saint-Pierre qui n'est plus utilisé. Donc, c'est ça, parce que le numérique, les caméras, c'est bien beau, mais on a besoin de l'humain. Et lorsque vous avez une présence de policiers en tenue, eh bien, ça change tout. Ça fait de la prévention. Et autre chose, sur les policiers municipaux, je veux aussi créer une brigade, par exemple, de nuit. Brigade de nuit, pourquoi ? Les policiers municipaux, c'est la tranquillité publique. On peut faire la tranquillité publique jusqu'à 2h du matin. Après 2h du matin, c'est la sécurité. C'est les policiers nationaux qui s'en occupent. Il faut être précis quand on fait des choses.
C'est aujourd'hui, c'est la loi actuelle.
Aujourd'hui, les policiers municipaux, ils s'arrêtent à 21h. Il n'y a pas de brigade de nuit. Donc moi, je propose qu'il y ait une brigade de nuit pour s'occuper de la tranquillité aussi publique de 21h à 2h du matin. Parce que c'est quand même des heures où il y a certains soucis à pas mal d'endroits. Et ensuite, je propose aussi qu'il y ait une convention de partenariat entre l'État, entre la police nationale et la police municipale, donc et la mairie, pour qu'il y ait une convention de coordination et notamment qu'ils puissent occuper une partie des locaux de l'hôtel de police que l'on a, comme ça se fait dans d'autres villes, et ça permettra d'être beaucoup plus efficace, notamment si on a par exemple une brigade, la brigade anti-criminalité BAC, donc au sein de l'hôtel de police. Si on a aussi il y a d'autres possibilités. Et surtout, ça permettra, notamment avec les caméras, de faire des enquêtes de flagrance et de les valider immédiatement, puisqu'il faut un officier de police judiciaire.
Les relations entre police nationale et municipale existent déjà depuis.
Mais on peut les améliorer. On peut faire justement par cette convention, et notamment en faisant en sorte que la police nationale puisse occuper une partie des locaux de la police municipale, améliorer aussi leurs conditions. Vous allez avoir un million de travaux, certes, à l'ancien commissariat, mais ils vont pas augmenter en nombre de places, c'est quand même en effectif réduit. Et après, ça, à nous aussi, en tant qu'élus, à négocier avec l'État. Si vous faites, par exemple, une occupation, vous avez, par exemple, 10 ou 15 personnes de la police nationale qui sont à l'hôtel de police municipale, eh bien, c'est de faire en sorte aussi de négocier qu'il y ait aussi un peu plus de policiers nationaux sur notre territoire. Parce que, à vouloir trop aussi augmenter, certains disent qu'il faut multiplier par deux. Il y a 47 policiers municipaux aujourd'hui, quand même. 47. Multiplier par deux, ça veut dire 100. Mais qu'est-ce que va faire l'État aussi? Il va dire quoi? Même si c'est pas les missions.
Désengager.
Mais oui. Or, on a un gros souci aujourd'hui. C'est que la nuit, la BAC, il y a qu'une équipe. Et ils sont débordés. Donc, il faut être sérieux à un moment donné. Quand on parle de sécurité, il faut être sérieux. Ne pas dire n'importe quoi et ne pas mentir. Et 24 heures sur 24. La police municipale 24 heures sur 24, c'est n'importe quoi. Entre 2h du matin et 7-8 heures du matin, vous pouvez pas intervenir. Vous n'êtes pas sur la sécurité. Et en plus, vous avez quand même aussi des caméras qui enregistrent, etc. Et puis là, ça coûterait beaucoup trop cher en termes de gestion. Je m'adresse à Michel. Il sait quels sont les coûts derrière de fonctionnement. C'est monstrueux. Puis vous savez, il y a aussi un autre problème. On a un taux d'absentéisme de 30% aujourd'hui à la police municipale. Il va falloir revaloriser. Il va falloir aussi faire en sorte qu'ils se sentent soutenus et valorisés dans leur métier.
C'est un problème apparemment qui est général au niveau municipal, d'après ce qu'on a pu apprendre.
Pas comme ici, je crois que c'est une caractéristique des collectivités publiques.
En tout cas, sur le Narbonnais, c'est criant.
Oui. Et alors, on va terminer, Monsieur Saint-Cluc, par l'agglo. On l'a évoqué, on en a parlé. Alors, bien entendu, on le sait que pour devenir conseiller communautaire et éventuellement président, il faut d'abord être conseiller municipal.
Oui.
Donc, quand vous avez une stratégie, celle que vous élaborez pour la ville de Narbonne, vous devez avoir pour la suite une stratégie pour l'agglomération, pour le Grand Narbonne.
Oui, alors, moi, j'aime pas trop faire de politique fiction. Vous avez vu effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déclarés. Alors c'est très compliqué de se déclarer, vous savez, dans ce genre d'élection, parce que ça dépend pas que de la ville-centre. Hein. Aujourd'hui, la ville-centre est en minorité par rapport à l'ensemble. Il y a 37 communes.
En minorité, mais c'est le gros morceau.
Mais c'est le gros morceau. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra travailler en partenariat, quelle que soit la majorité qui se dégagera de cette agglomération. Imaginons qu'on est la ville et qu'on n'est pas le candidat que l'on souhaite au niveau de l'agglomération. Il faut travailler en partenariat, quoi qu'il arrive. Et il faut avoir donc des postes clés aussi au niveau des conseillers communautaires de la ville de Narbonne.
Notamment, je pense. Ça vous semblait raisonnable, cette notion de trois tiers?
C'est-à-dire
12 divisé par 3, 4 pour la ville-centre, 4 pour le littoral, 4 pour
alors,
le
rural. Il me semble que c'est 15, hein, en tout. Il y en a 15 hein, aujourd'hui.
Oui, mais il partait sur une hypothèse de 12.
Oui, mais moi, je pense sur une hypothèse de 15, par exemple. Moi, je pense qu'il en faudrait 5 pour la ville-centre, par exemple. Vous avez la mobilité. La mobilité, je pense que c'est la ville devrait avoir la mobilité.
Les transports.
Là, parce que là il y a un enjeu considérable. Quand on parle de gaz à effet de serre, quand on parle aussi de problématiques au niveau de la ville, quand on sait ce qui va se passer au niveau de l'entrée est, quand le parking par exemple du parc des expositions va disparaître, ça va être un Capharnaüm. Donc il faut tout prévoir. Sur les transports, ça va être vraiment le plus important. Les transports aujourd'hui, c'est ce qui consomme le plus, c'est ce qui coûte aussi le plus cher aux gens. Hein, que quand vous avez un ménage avec deux voitures, eh bien, ça revient très très cher. Et si vous faites en sorte que vous avez un transport public de qualité, surtout qui arrive à l'heure, donc est plus efficace et peu coûteux, ou voire gratuit, ça, il y aura une étude aussi qu'on pourra lancer, mais à partir de là, vous pouvez changer les modes de vie et vous faites gagner du pouvoir d'achat aux gens. Seulement, tout ça, ça se travaille vraiment avec un ensemble, sur l'ensemble de l'agglomération, de manière très très fine. Il faut pas faire n'importe quoi et ne pas déclarer n'importe quoi. Mais nous, ce que l'on veut effectivement, c'est au niveau de l'agglomération avoir certains postes clés, pas le poste de président de l'agglomération. Je pense que c'est important aussi que ce soit quelqu'un d'autre, mais effectivement il faut que le maire ou la maire de Narbonne ait, et je me semble-t-il, au moins la première vice-présidence. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure en faisant l'hypothèse si c'était effectivement monsieur Mouly, voilà, parce que je crois que les gens ne comprendraient pas que la ville centre n'ait pas ce poste-là. Et puis surtout, c'est important que la ville effectivement puisse suivre au plus près les dossiers de l'agglomération, car beaucoup de choses au niveau économique, au niveau des transports, relèvent de l'agglomération, du tourisme aussi. Donc vous voyez, de plus en plus, l'agglomération, c'est la clé. Après, que les candidats, effectivement, se dévoilent. Vous en avez cité un certain nombre. Il y a Guillaume Heras, il y a Magali Vergne. Peut-être qu'il y a aussi Monsieur Martin. Moi, j'ai entendu aussi parler de Monsieur Martin. Maintenant, il n'y a plus Monsieur Malquier, pour des raisons peut-être
il n'y a plus, on ne sait pas.
Pour des bonnes ou des fausses, je ne sais pas. En tout cas, quand vous avancez des hypothèses, Michel, souvent, souvent, il y a des sources sûres, fiables. Donc, après, les explications qui seront données seront pas forcément les vraies, parce que c'est vrai que voilà, moi je dis les choses clairement. Après, est-ce que ça sera aussi Codorniou? Pourquoi pas? Tout est ouvert. Ce qui compte, c'est pourquoi faire, quel est le projet derrière et comment on va mettre en musique tout ça, c'est-à-dire dans quel intérêt, parce que là, on a un moment de l'histoire où on ne peut pas se tromper.
Donc, on va conclure là-dessus et je reprends votre image. Mettre en musique, donc, qu'est-ce qu'il faudra? Ça sera un chef d'orchestre.
Exactement. Et je voulais juste finir sur...
programme, en fait, hein. Il faudra quand même qu'il le sorte.
Nous, sur l'agglo, justement, sur notre programme, il y aura des, ce qui relève de l'agglo sera fléché à agglomération. Je crois que c'est très important de le faire. Ne pas mentir aux gens. Et on fera une présentation de la liste et d'une partie de notre programme le jeudi 30 janvier prochain au Palais du Travail à 18h30.
Voilà qui est dit. Merci, monsieur Saint-Cluc.
C'est moi qui vous remercie.
D'avoir fait le tour, actuellement, puisque forcément vous êtes en pleine campagne. Le prochain candidat, ça sera monsieur Jean-François Darrot pour le Front National, pour le Rassemblement National, ou le Rassemblement des droites, je crois que c'est comme ça qu'il l'intitule. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce 14e Radio Barque de la saison, et à la semaine prochaine.